Genèveactive.ch.
Patrick Weidmann, Neverland au Cannes Neuchâtel. C'est une exposition qui permet de faire sans doute entrer en dialogue votre travail photo avec une série d'objets design notamment. Qu'est-ce que vous explorez au travers de ce travail?
Alors on explore le monde qui est un monde atemporel, qui n'existe pas et qui est matérialisé d'une manière un petit peu fractale et surprenante par en effet des objets design un peu high-tech, soit complètement salis par une époque indéterminée, qui se reflète ou se reporte ou s'extrait des images.
Dans l'ouvrage que vous avez publié en 1997, Happy Ends, vous pratiquez un peu une alternance entre le descriptif et le discursif. Et puis, il y a une sorte de détournement des objets, de la langue également. Est-ce qu'aussi c'est le cas avec Neverland, où il y a ce que vous aimez appeler des amorces de fiction?
Je suis fasciné, on peut dire, par l'écriture au sens d'une expérience. À vrai dire, elle vient de très loin, elle est très primaire. Mais comme je suis d'une civilisation et d'une société qui entretient des liens affectifs et virulents avec l'apparence, tous les effets de surface qu'elle génère, j'essaye de faire une espèce de superposition, on va dire comme ça, superposition, comme dans un lit de hasard ou non hasardeux, mais de superposition aussi esthétique, alors là tout à fait différente, ou même formelle ou abstraite, alors là très différente et très concerté entre les éléments qui s'organisent dans ce jeu. Ce contraste entre les choses extrêmement fabriquées et tout à fait naturelles qui fait qu'on est un peu ce qu'on est et qu'on écrit comme on écrit. Et j'entretiens un lien très fort avec ces contrastes. On a en effet un objet design de dentiste qui est très connoté, un peu sali, un peu vieillot, qui a servi à extraire des dents d'adolescents. On a en effet un Terminator mal fini, mal réalisé. C'est un jouet qui n'amuse personne. Et puis on a en effet cette douche assez high-tech qui nous ramène vers peut-être une époque tout à fait saisissante et actuelle. La relation de ces trois éléments fait qu'on glisse, comme on glisserait sur des surfaces, on glisse sur des temps, des surfaces mais avérées comme une saleté qui date, comme un voile de plastique qui date, mais qui date de 2 semaines.
Il y a cet aspect sur lequel vous revenez très souvent, c'est-à-dire d'Uchronie, ou alors si on revient à l'origine de Neverland, c'est un pays où Peter Pan, en fait, est le seul à être immortel, et c'est une espèce de pays imaginaire d'où l'on ne sort jamais. Donc il y a un côté très cyclique, c'est-à-dire rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est un petit peu la mythologie, la bande-annonce, le pitch de Neverland.
Moi, je pense que tout est soumis un peu à cette loi. Les affectoires d'amour, peut-être, n'ont plus de temps. Elles commencent, elles finissent un jour ou l'autre, un mardi, un mercredi, un 2006, un 2009. Comme j'écris, je vis dans un temps qui n'existe pas, qui est un temps qui devient fétichiste presque de lui-même, qui est une espèce de tautologie temporelle. Donc c'est une espèce de menace permanente, mais en même temps qui est amicale. Et qui finit par n'inquiéter que l'écrivain. Une fois l'œuvre finie, on peut dire que le temps redémarre. Le temps est une pression qui peut tout détruire et tout nouer un petit peu en même temps. Mais je pense qu'alors qu'on est vraiment soumis à cette terreur en quasi-permanence, alors même les objets, les images aussi, moi-même je choisis des images de plusieurs années en arrière. Elles sont présentes dans une exposition, il y a des images actuelles, il y a des images un peu d'il y a quelques années, donc je suis tout à fait conscient que le non-temps joue pour moi et que le temps me fragilise. C'est peut-être une réaction de défense qu'on a tous avec ce genre de choses.
Est-ce qu'il en est justement par rapport à cet aspect de bruitage de la femme entre des poses lascives, des poses un peu plus glacées, des poses retravaillées de magazines, désesthétisées comme vous l'appelez?
On avait fait allusion à la chirurgie esthétique. Toutes les procédures d'embellissement de la femme ou de sa présence ou de sa disparition ou de sa capacité à générer soit du désir. Ce sont des marchés qui sont quand même énormes, qui sont mondialisés, qui sont Ça va du laser au traitement du mésoderme, du photoraffermissement photovoltaïque à la retouche Photoshop. Donc là aussi, on ne saisit jamais la réalité puisqu'elle est industriellement conçue pour ne répondre à des critères qui nous semblent à la fois évidents. Moi, je ne fais que m'approprier des schémas, des icônes. Je les transforme en égéries qui n'ont jamais existé, en serial killers qui n'ont pas vraiment existé non plus. Je leur attribue des rôles, des capacités, compétences, des poésies, des postures qui sont à la fois excessives pour répondre évidemment à l'excès qui nous est imposé, mais en même temps, j'essaie de leur attribuer des espèces de failles, de vacances, de zones un peu sombres, un peu intimes et très personnelles. Donc j'essaye aussi de faire remonter à l'intérieur de cette espèce d'extravagance et de cette violence quasi absolue des qualités premières. Elles ont lu des auteurs compliqués, elles ont théâtralisé des scènes impossibles, elles reproduisent des sexualités mythologiques ou impossibles. Je m'empare de ce dont elles pourraient s'emparer si je leur donnais toute la liberté possible et imaginable.
Est-ce que votre travail, ça serait pas un peu le tombeau de toutes les images? Si on prend la dernière phrase de votre récit Poupée morte à musée, on lit « Le tout à l'égout des miroirs, mourir jeune d'être né opaque ».
Culturellement, je viens d'une cosmogonie un peu électrique où les poètes se sont éreintés à entrer dans des faces obscures dont ils ne sont souvent pas sortis. Et moi, je trouve que c'est formidable. Pour autant qu'on ait une lumière au bout du couloir. D'ailleurs, je crois que Goethe, sur son lit de mort, disait « c'est formidable de mourir », mais il disait « mehr Licht ». Encore un peu de lumière, s'il vous plaît. Et je peux dire que mes images sont en effet des tombeaux, mais je leur demande « mehr Licht ». Mourir, c'est formidable, mais c'est vrai qu'avec une bonne lumière, ça serait vraiment parfait.
Qu'est-ce qu'il en est justement sur ce rapport au cinéma? Je sais bien que c'est une question absolument impossible à traiter, mais...
Oui, c'est impossible à traiter puisque on ne fait que tourner le film qu'on pense indispensable à son existence. Maintenant, il y en a tellement qui ont été faits et ils sont tellement on est tellement imprégné que là aussi, on rembobine et on rejoue certaines choses. Le cinéma, alors là, il peut être aussi très varié, il peut être pulsionnel. Mais je crois qu'il y a toujours un pourcentage de cinéma dans une image. Il y a 10% de cinéma dans n'importe quelle image. Un photographe qui a un petit peu de recul, mais en même temps d'énergie pour phagocyter les cinémas, en met un peu plus. C'est-à-dire qu'il offre des sortes de petits scénarios à l'intérieur des grands scénarios. Alors bon, je peux pratiquer ça, mais je sais pas. Alors c'est vrai que ça peut être le cinéma muet allemand, hollywoodien des années 50, ou italien, ou néo la nouvelle vague. Il y en a plein. Je serais très prudent là-dessus parce que je suis un peu parce qu'on est dans le feu de l'action, on oublie tout ça. Même si on fait quelques photos à Cannes, c'est pas du cinéma, mais c'est comme une espèce de bulle dans laquelle on respire un air plus ou moins cinématographique, quoi qu'on fasse. Genève Active.ch